Jam.
La radio qui nous connecte.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Mycélium, la radio de la raffinerie. Lundi 9 mai, il est 18h11. À la technique, mon acolyte Guillaume, salut.
Salut France.
Et moi-même donc France, bienvenue à vous dans l'émission Micromonde. Ici on décortique ce qui se passe à la raffinerie. La liste est longue, les pôles sont nombreux, jardin, culture, micro-recyclerie, alimentation, sport, les outils en commun et la coopérative. Cet après-midi justement, il y a eu une réunion sur les postes transversaux qui permettent de faire le lien entre les différents pôles. En ce moment même, il y a une réunion sur la serre aquaponique. Des réunions, des échanges sur le fonctionnement, ici on a régulièrement. Je rappelle que c'est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas si un sujet vous intéresse, pas besoin de prévenir, vous regardez le programme et vous venez quand vous voulez. Bref, ici dans Micromonde, au cours de la dernière émission, on a pu parler légumes de producteurs et AMAPI. Il y a distribution de paniers et de légumes tous les mercredis ici. Et aujourd'hui, on change encore de thème. Un projet colossal comme celui qui est en train de se monter ici ne pourrait pas voir le jour sans des personnes qui réfléchissent au plan, aux aménagements, à la construction. Vous l'aurez compris, je parle des architectes, mais pas que. On a le plaisir de recevoir deux invités. Bonjour.
Bonjour France.
Bonsoir.
Alors du coup, on a Valentin, t'es architecte d'intérieur, designer à ton compte chez Atelier Vava. T'es aussi infographiste et depuis un an, tu t'es reconverti dans la permaculture et plus précisément dans le design permacole. Et tu fais partie de l'asso Permaculture Réunion et t'es sur le projet de la raffinerie depuis presque 2 ans maintenant. Et ça va, j'ai bien présenté ?
C'est exactement ça, oui.
Bon. Fatema, toi, t'es architecte à ton compte. Ton entreprise s'appelle Martha. Tu t'es tout de suite orientée vers des projets qui intègrent une démarche de développement durable. Et dès que tu as créé ta société en 2019, tu as commencé à t'investir à la raffinerie. C'était le tout début, le projet était en pleine construction, les bases étaient posées, mais tout était à faire. En gros, c'est toi qui as mis sur papier, qui as mis en dessin toutes les idées qui ont émergé des personnes investies ici. C'est de la co-construction, on va voir ça juste après. Alors tout d'abord, Fatema, est-ce que tu peux nous rappeler l'historique de la raffinerie d'un point de vue architectural, d'un point de vue des plans?
Oui, bien sûr. C'est un vaste sujet, il s'est passé beaucoup de choses depuis que je suis arrivée. Je n'étais pas évidemment la première, mais en tout cas, moi, mon histoire à la raffinerie a démarré il y a un peu plus de 3 ans, je dirais en janvier 2019, comme tu as dit, pile au moment où j'ai monté ma boîte. Et quand je suis arrivée la première fois à la raffinerie, déjà j'ai mis 3 fois avant de trouver où c'était, donc j'ai rebroussé chemin 2 fois. Et c'était un terrain complètement en friche avec des montagnes de déchets recouverts de végétation. Et à l'époque, il se passait essentiellement des réunions qui servaient à réfléchir à ce projet, à l'avenir de ce projet. Donc, j'essaye de me remémorer quelques dates clés. Je vais sûrement en oublier, mais en tout cas, moi, c'est peut-être celles qui m'ont marquée. Toute l'année 2019, c'est essentiellement déroulé avec ce genre de réunion. Il y a une date clé en 2019, 21 juin, avec une fête de la musique mémorable. Bon, j'en parle comme si j'y étais, alors que j'étais pas à la réunion, mais on m'a parlé de 1000 personnes, un événement incroyable. Et comme date clé, je note que en 2020, on a déposé un permis de construire qui a été obtenu en 2021, qui a marqué quand même un soulagement sur l'avenir du projet. Et en 2020, j'ai noté aussi le démarrage des chantiers participatifs qui a marqué un nouveau fonctionnement à la raffinerie et qui a vraiment participé au développement du lieu. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, c'était en juillet 2020, à peu près, hein, où les ateliers ont démarré et qui ont permis aux bénévoles de commencer à véritablement construire le lieu avec les outils mis à disposition. Voilà, donc ça dure à peu près depuis plus d'un an et demi. Après, il y a eu des dates un peu clés, comme l'ouverture de la buvette, qui a permis de mettre en place des apéros, qui sont devenus un événement un peu incontournable. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Peut-être que d'autres personnes pourront m'aider sur des événements clés qui ont marqué des évolutions à la raffinerie.
Il y a les workshops avec les archis.
Oui, les workshops avec les étudiants en architecture qui a permis de mettre en place des installations qui sont restées à la raffinerie depuis maintenant 2 ans. Donc voilà. Après, je peux aussi penser à toutes les installations qui ont été réalisées et qui sont donc de manière pérenne installées à la raffinerie. Je pense à la serre aquaponique, dont la conception a vraiment, je pense, démarré depuis 2019. Mais la réalisation, si je ne me trompe pas, j'essaie de relire mes notes, je dirais début novembre 2020. Oui, c'est ça. Novembre 2020, avec une mise en place des bacs à poissons un an plus tard. Donc là, pareil, ça montre aussi l'étendue d'un travail colossal qui est fait en autoconstruction par une équipe de bénévoles et qui montre la temporalité que je trouve propre à la raffinerie.
Mais au début, du coup, c'était un terrain vague rempli de déchets. Ça a duré combien de temps ? Combien de temps vous avez fait pour le vider ? Et au bout de combien de mois de réunion, vous avez commencé à concrétiser un petit peu le projet ?
Alors, j'aurais sûrement dû commencer par le fait qu'on est hébergé par le département. Donc, c'est un terrain qui appartient au département, qui a mis à disposition de la raffinerie le terrain pour 4 ans, donc fin 2018. Et ils se sont occupés de nettoyer le terrain pour qu'il soit vraiment à disposition de l'association. Donc, j'étais pas là au moment exact où les camions sont venus récupérer ce qu'ils devaient récupérer, mais ça a mis un petit bout de temps. Donc, ça a permis de mettre à plat ce terrain. Donc, pour ceux qui étaient là, c'est une période qui paraît très lointaine quand on voit aujourd'hui tout ce qu'il y a sur le site, mais ça a vraiment commencé comme ça, avec rien.
Alors, comme je l'ai dit en intro, toutes les idées qui ont émergé pour façonner la raffinerie, pour l'agencer, c'est toi ensuite qui les as concrétisées sur papier. Mais comment est-ce que vous vous êtes organisée pour travailler à plusieurs ?
Alors, c'est bien que tu insistes sur le fait que j'ai mis sur papier. Je tiens à rappeler...
J'ai repris tes mots.
Oui, c'est bien. Rappeler ce détail ou cette manière de faire, parce que ça a été pour moi une nouvelle manière de travailler quand je suis arrivée à la raffinerie. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par participer à des réunions sur des sujets ultra variés. Je suis venue la première fois parce que c'était une réunion sur l'aménagement des jardins, donc je me suis dit que ça pouvait me correspondre. Et très vite, j'ai commencé à participer à d'autres réunions sur le thème de l'épicerie en vrac, du sport, de la culture... Et je me suis rendu compte que tous les sujets m'intéressaient et que je pouvais apporter des idées sur des sujets que j'imagine pas forcément me concerner au préalable. Mais voilà, c'était très, très enrichissant. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis impliquée sur le projet d'aménagement et j'ai compris que c'était nécessaire de récolter toutes les idées qui émergeaient en fait de ces réunions pour pouvoir les matérialiser sous forme de plans, de dessins, pour permettre aux personnes de se représenter le projet et de pouvoir le faire évoluer, d'avancer. Donc ça a duré des mois, je dirais. Un an et demi, par exemple, avant de déposer le permis de construire. Donc, j'ai pas compté le nombre de plans réalisés pendant un an et demi, mais c'est vrai que ça changeait très régulièrement, je dirais, après chaque réunion. Mais c'était une manière, en fait, d'enrichir le projet parce que il évoluait en fonction des idées des personnes présentes. Donc, c'était vraiment l'énergie humaine qui faisait évoluer ce projet. Et contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire dans mon exercice classique, j'étais pas seule maître de la conception du lieu.
Ouais, si je peux compléter aussi ce que dit Fatema, c'est aussi une des choses qui est marquante aussi pour moi à la raffinerie, c'est la co-conception.
Explique-moi.
Et ben, faut savoir que en tant qu'architecte ou designer ou décorateur, on est dans nos métiers de tous les jours avec nos clients. On est des prestataires. Alors même si on travaille ensemble avec nos clients, il y a quand même toujours un rapport un peu client-presta. Et aussi, on peut... Voilà, on a toujours cette nécessité d'efficacité et surtout d'être sachant sur ce qu'on va préconiser. Et en fait, ce qui est intéressant à la raffinerie, c'est justement d'avoir plus de temps pour travailler sur les projets et aussi d'avoir des interlocuteurs qui sont d'autres milieux, d'autres, qui ont d'autres expériences, qui ont justement ce côté naïveté face à un projet. Et on dit souvent que... D'ailleurs, Guillaume, essaye de... Je vais dire un truc intéressant, là. Prépare les applaudissements. Mais il y a le... On a le... Ouais, on pense que la naïveté est est un défaut. Et en réalité, quand on lit la définition, c'est plutôt quelque chose de pur et c'est plutôt quelque chose de pas façonné. Donc, en fait, quand on a un regard naïf sur quelque chose, on a tendance à le sublimer. C'est-à-dire qu'on va... Toutes les barrières... je pense que Fatema aura peut-être le même ressenti que moi, mais on est formaté, nous, en tant qu'architecte ou en tant que designer, sur voilà, des contraintes techniques ou des contraintes financières ou réglementaires. Et en fait, de travailler avec des gens qui ont cette naïveté de la non-expérience, en fait, bah, fait que les projets, en tout cas sur le début, sur la conception, peuvent vraiment être plus fous, quoi.
Donc on a l'impression que tout est possible, en fait, vu qu'on n'a pas d'idées, de normes, de règles, etc. On imagine des trucs qu'on n'aurait pas imaginé si on était juste entre architectes et clients, quoi.
Exactement. C'est ce qu'on... Moi, c'est une des choses que je viens, qui m'intéresse vraiment ici et pour lesquelles je viens, c'est de pouvoir monter des projets avec, avec des gens naïfs.
Ah.
Merci, Guillaume.
Naïf, donc, dans le bon sens du terme.
Bien sûr, dans le bon sens du terme.
Dans le sens de pouvoir... continuer à s'émerveiller.
Exactement.
Et à penser l'impossible, en fait. Concrétiser ce qu'on pourrait penser impossible.
Ouais, et puis ça donne aussi parfois la parole à des gens qui l'ont pas. Souvent, on dit que, qu'il y a des... C'est vraiment le cas dans nous, les réunions qu'on peut avoir en archi, c'est toujours celui qui parle le plus fort qui a raison. Enfin, c'est souvent comme ça, c'est un peu cliché, mais on a souvent cet effet un peu de...
Bataille de coq.
Voilà, de bataille de coq et d'un monde assez un peu... En plus, c'est un milieu un peu macho. Hein. Même si il est bien représenté par Fatema aujourd'hui. Mais voilà, c'est bien aussi de laisser la place à des gens qui sont plus timides. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intéressants ou qu'ils ont des moins bonnes idées. Au contraire, c'est... Là aussi, il y a du bon partout, quoi.
Et du coup, on parle de concertation, de co-conception, d'auto-construction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ?
Je peux reprendre sur la co-concertation. C'est l'idée de mettre en commun des idées. C'est un outil qui est beaucoup utilisé dans des projets d'aménagement urbain. Voilà, souvent, c'est des grands projets ou projets publics où on va prendre en compte, on va aller à la rencontre des futurs usagers d'un espace public ou des habitants d'un quartier, voilà, pour prendre en compte et intégrer leurs besoins et leurs.
Là, vous avez fait ça pour la raffinerie, les habitants du quartier ?
Alors là, ça, ce que j'explique, c'est plus une question, enfin, le principe de fonctionnement. Oui. Et je dirais qu'à la raffinerie, c'était les raffineurs, en fait, les futurs usagers, qui donnaient leurs idées, leurs avis sur le futur fonctionnement du projet. Je dirais même que c'était au-delà, parce que en même temps de donner son avis sur l'usage, c'est aussi donner son avis sur le projet. En fait, on fait le projet ensemble. C'est de la, enfin. Souvent, on a l'impression que la concertation, c'est une fausse co-conception, c'est-à-dire qu'on va plus présenter le projet une fois qu'il est décidé pour prendre les avis des usagers, ce qui est déjà une bonne chose, hein, avant la réalisation du projet. Alors que là, c'est de la vraie concertation et de la co-conception, c'est-à-dire réfléchir ensemble au projet. Donc voilà, ça évite quand même pas mal d'allers-retours, ça fait au final gagner du temps. C'est quelque chose qui souvent est pris comme un frein parce qu'on ne préfère pas trop demander les avis des gens pour éviter d'avoir des remarques négatives, etc. Alors qu'à la raffinerie, comme l'expliquait Valentin, je trouve que c'est une vraie impulsion pour au contraire faire un projet plus intelligent collectivement. Donc en fait, ça va que dans le bon sens.
Et vous faites en sorte que tout le monde soit d'accord ?
Dans un souci de sociocratie, on doit dire oui. On devrait dire oui. Après, il faut aussi se rendre compte que les réunions, elles sont ouvertes à tout le monde. Ce qui est, c'est un avantage dont on parlait, mais ça a aussi l'inconvénient que d'une réunion à l'autre, on ne voit pas forcément les mêmes personnes. Donc en fait, obtenir un consensus, c'est pas forcément le plus évident sur les projets. Mais déjà, d'être d'accord à la fin de la réunion, si on est 7-8 personnes, c'est déjà pas mal, quoi.
Oui.
Donc si on repart avec quelque chose de figé et voilà, une prochaine date de réunion et des choses à faire, on est déjà content.
Du coup, c'est une manière de travailler qui est totalement nouvelle, en fait, pour vous, et que vous ne trouvez pas forcément dans d'autres sphères.
Non, c'est complètement nouveau pour moi. Je l'avais initié lors d'une expérience précédente. J'ai pas parlé, ou tu as peut-être parlé quand tu as présenté mon parcours au sein du CAE. C'était pareil, c'était ce dont je parlais tout à l'heure, des concertations public sur des projets d'envergure. Là, le fait de me mettre sur la table avec des plans et de redessiner en fait ce qui a été décidé collectivement, c'est vraiment complètement nouveau. Je peux grâce à ça en fait m'en inspirer pour les projets futurs, parce que c'est une manière de consulter les usagers qui est hyper intéressante.
C'est limite dur de retourner dans un fonctionnement traditionnel.
Bah ça paraît assez aberrant, en fait, de ne plus tenir compte de la vie des usagers, oui. Je me sens un peu seule face à mon ordinateur, de prendre des décisions pour des gens que je ne connais pas ou que je ne vais pas pouvoir rencontrer ou questionner en amont. Je ressens maintenant ce besoin d'aller directement voir des gens pour leur poser des questions, discuter avec eux, enfin voilà. Ça paraît évident, mais c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas fait, comme beaucoup de choses, oui, c'est jamais inné.
Et moi, dans mon parcours, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est même plutôt quelque chose vers lequel je tends. Mais j'ai bossé à Paris dans des agences de design où on était, voilà, on répondait à des compétitions et c'était des équipes avec un graphiste, un architecte, quelqu'un qui faisait de la stratégie, du marketing, des choses comme ça. Donc on avait déjà cette notion de travail en équipe et de collaboration. Mais là, ce qui différencie avec la raffinerie, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est nous, on était plutôt des experts dans nos domaines. Et là, l'intérêt, c'est plutôt d'avoir des gens un peu plus naïfs, comme on disait. Je travaille aussi sur permaculture, comme tu disais tout à l'heure, et nous on pratique donc la sociocratie pour les prises de décision, mais aussi sur les...
Explique-nous alors la sociocratie.
Bah, la sociocratie, ce serait par exemple sur des... Tu parlais d'avoir l'avis de tout le monde, et nous quand on prend des décisions de groupe, on n'essaye pas d'avoir la majorité, on essaye que tout le monde soit d'accord avec la prise de décision, ou alors qu'il puisse vivre avec. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'arguments qui sont opposés, et s'il n'y a pas de personne qui est totalement opposée, en fait, il y a trois niveaux de lecture. Il y a « je suis opposé, j'ai le pouce en bas », c'est pas très radiophonique, mais « j'ai le pouce en bas, je suis opposé à la décision », donc là, j'ai la possibilité d'en discuter avec les autres et d'exposer mon point de vue.
Quand j'ai le pouce en bas.
Quand j'ai le pouce à mi-hauteur, c'est-à-dire que je peux vivre avec. C'est-à-dire que la décision sera prise que s'il y a des pouces à mi-hauteur et des pouces levés.
Ouais.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et pour reparler de travail en groupe, on fait aussi chez Permaculture de l'intelligence collective, donc de la gestion de projet en intelligence collective. Et
explique-nous aussi.
C'est pareil, c'est tout un tas de méthodologies ou de process à mettre en place pour juste que les paroles de chacun soient écoutées, que les prises de décision soient faites de manière commune. Et il y a tout un tas de choses, il faudra faire la formation pour...
Et ça, c'est depuis que tu as fait, que tu as changé de voie et que tu es parti en permaculture ?
Non, parce que comme je te disais, je suis toujours à peu près...
Pardon, parce qu'à ce moment-là, Guillaume, il m'a parlé et du coup, j'ai raté une ou deux phrases.
Non, quand je te disais,
je balance.
Je travaillais déjà collectivement dans des agences avant. Et ouais, ce qu'il y a peut-être de plus, c'est le côté humain, voilà, qu'on n'avait pas. On avait dans le milieu professionnel, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. T'es toujours un peu pressé par le temps, toujours un peu dans le speed, et on demande de toi des résultats. C'est moins le cas à la raffinée, comme disait Fatema. On a plus le temps, on a plus on peut interroger tout le monde, et puis on doit aussi faire avec les contraintes financières et techniques qui sont aujourd'hui mises à notre disposition. Donc ça demande réflexion.
Ok, bah je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Juste après, on verra les avantages de cette manière de construire et de réfléchir sur un projet. Tout de suite, donc, c'est Roman et Gaël, c'est un duo réunionnais. C'est un morceau très minimaliste, voix claquement de main et caillambe. C'est le morceau Tibaba et on se l'écoute tout de suite. Voilà, à l'instant, donc, c'était Roman et Gaël, un duo réunionnais, Tibaba. Et on continue dans cette émission où, pour l'instant, on a parlé pas mal de comment on s'organise, le métier d'architecte à la raffinerie, comment ça se passe. Mais côté travaux, côté concret,
oui.
Guillaume.
Oui. Oui, France.
Oui.
Ah oui, côté concret, côté travaux.
On veut du concret, là. On s'est un peu dispersé sur comment on construit un projet colossal à autant de personnes.
Oui, mais France, c'est vrai. Moi, j'ai une question.
Concrètement, là, il va falloir du concret, là.
Ouais. Et bien, alors, concrètement. Non, mais moi, j'ai une question. Là, on a parlé de différence dans l'organisation. Donc, on en parlait pendant la pause. Mais est-ce qu'il y a une différence aussi dans la nature du projet ? Concrètement, faire de l'architecture pour un tiers-lieu, est-ce que c'est la même chose que faire l'architecture pour parler de services publics ou pour une maison ou un particulier ? Est-ce qu'il y a une spécificité ?
Avant même peut-être de parler de la spécificité du projet, on aurait pu décrire le projet de la raffinerie, ce qu'il comporte exactement pour les gens qui ne sont jamais venus, par exemple. Donc on est sur un terrain qui fait à peu près 7000 m2, qui comporte une longère historique, qui étaient les anciennes sucreries de bonbons, qui font à peu près 2000 m2, qui sont en cours de rénovation par le département, donc qui est propriétaire du lieu, et qui vont accueillir toute une panoplie d'activités en lien avec la raffinerie, donc des ateliers partagés, des ateliers de menuiserie, d'artistes, des espaces d'exposition, des espaces de coworking et un futur restaurant. Et l'association, en attendant que cet espace soit réhabilité, occupe l'espace extérieur, donc les 5000 m2 restants, et va y implanter des conteneurs pour accueillir ces activités en attendant que le projet de réhabilitation se fasse. Donc c'est ce projet-là sur lequel moi j'ai accompagné l'association depuis 3 ans. Et c'est ce projet-là qui a pas mal évolué en 3 ans. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il portait sur à peu près 13 conteneurs. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas Valentin...
22.
Voilà, 22 conteneurs. Donc il s'est étoffé au gré des fameuses réunions dont on parlait tout à l'heure.
D'ailleurs, si vous avez des conteneurs à donner...
Oui, parce que d'ailleurs, récupérer. On a besoin d'un conteneur pour la radio, pour le Media Lab, hein, n'est-ce pas ?
Eh ben, c'est une des missions sur lesquelles je travaille, c'est de trouver des conteneurs à la raffinerie. Parce que, évidemment, on a cherché un moyen de construire rapidement et, si possible, avec des choses qu'on trouve en local et récupérer. Et le conteneur était vraiment une pièce maîtresse maintenant du projet de la raffinerie. Parce que c'est vraiment c'est l'identité architecturale. Toutes les constructions qu'on est en train de faire sont en conteneur. Et ça collait bien aussi avec le côté Indus du site, avec son nom. Donc voilà, il y a une cohérence dans l'application des conteneurs.
Et l'identité du lieu.
Alors justement, les conteneurs, comment vous faites pour... En fait, c'est pas du tout adapté au climat. Donc, comment on fait pour les rendre confortables ?
Alors, c'est un gros sujet à la raffinerie, puisque tous les équipements à l'extérieur quasiment tous sont installés dans des conteneurs, et qu'effectivement, on est en milieu tropical où il fait chaud et humide, et que les conteneurs en acier ne sont pas forcément... adapté au climat. Donc, c'est un des avantages du projet de la raffinerie, c'est qu'il nous permet de mettre en place de réfléchir à ce sujet et d'expérimenter des solutions qui répondent à cette contrainte, à cette nécessité d'adapter ces conteneurs. Donc, on a la question de l'isolation, donc soit en toiture ou soit en façade, sachant qu'on a cette demande de l'architecte des bâtiments de France qui nous impose de laisser ces conteneurs bruts, c'est-à-dire qu'ils doivent être visibles et reconnaissables en tant que conteneurs. Donc, on ne peut pas les recouvrir d'un bardage.
Pourquoi ? Ça fait quoi si...
C'est ce que disait Valentin tout à l'heure, c'est qu'on utilise ces conteneurs pour leur aspect industriel. Donc, si on les recouvre et qu'on les cache avec du bardage bois, par exemple, on ne les reconnaît plus, on ne dirait plus des conteneurs et en fait, on n'est plus sur un site industriel. Donc, voilà, c'est l'idée vraiment du stockage comme sur les ports à la raffinerie. Et on a aussi la question de l'isolation en toiture. Donc là, en ce moment, on essaye de mettre en place une toiture végétalisée qu'on a surélevée sur le conteneur du futur laboratoire de transformation alimentaire. Donc rapidement, j'explique le principe, c'est qu'on a, comme le plafond était bas, c'était un petit conteneur, on a ouvert en fait ce conteneur sur sa partie haute, toute la toiture, on l'a enlevé et on a surélevé avec une structure en métal. Donc en fait, on a recréé un toit, ce qu'on appelle une surtoiture, mais plus haute que celle qui était à l'origine. Donc ça a créé un vide entre le conteneur et sa toiture qui sera... en plus végétalisé, qui permet de laisser circuler l'air entre la toiture et le conteneur. Donc ça, c'est en cours. On va essayer de faire des relevés de température avant, après, pour pouvoir vraiment l'impact. Et ça permettra de développer ce concept sur les autres conteneurs une fois qu'on aura trouvé la solution qui fonctionne. Donc ça, c'est un principe de fonctionnement qui m'intéresse parce que ça permet de tester, d'améliorer si nécessaire et ensuite de partager, de diffuser, faire de la pédagogie, de la sensibilisation grâce à cet outil.
Et une des solutions aussi pour le problème de chaleur, c'est la ventilation. Parce qu'on est dans en climat tropical, comme disait Fatema, on a une des seules solutions, c'est un peu comme faisaient les anciens et dans les vieilles cases, c'est d'avoir des maisons qui sont ventilées, donc des espaces qui sont ventilés. Donc c'est créer des ouvertures sur les vents dominants. Donc là, ça rattache un peu à la permaculture, mais c'est déjà de bien orienter les conteneurs et de comprendre dans leur orientation quels sont les vents dominants, mais aussi quelles sont les façades qui vont être le plus impactées par le soleil. Donc c'est à ces endroits-là... peut-être prévoir des auvents, des ombrières qui vont permettre de minimiser l'impact du soleil sur le conteneur et du coup de chauffer la tôle. Parce que c'est la tôle après va restituer la chaleur emmagasinée. Donc les RTA Dôme, on a de la chance, c'est une agence d'archi réunionnaise de Saint-Pierre qui s'appelle Le Lab, qui l'a créé il y a peut-être 15 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais on peut être fier que ce soit des Réunionnais. Mais voilà, faut la mettre en application. Et sur un conteneur, c'est, je ne suis pas sûr encore que...
Le quoi, j'ai
beaucoup
pas...
fait.
Le RTA Dôme.
La RTA Dôme.
La RTA Dôme.
Ouais. C'est la réglementation thermique, mais appliquée au Dôme.
Okay.
Donc qui est obligatoire sur tous les projets de logement. Et en fait, c'est l'équivalence qu'en métropole, on appelle RT 2012 ou 2020. Donc, c'est des réglementations thermiques. Mais on a la chance d'avoir une réglementation, pour une fois, spécifique au DOM-TOM. Donc, adaptée au climat.
Et qui a été appliquée dans les autres DOM-TOM aussi, du coup.
D'accord. Et qui, c'est une réglementation qui fixe quoi ?
En gros, elle va impacter les sujets de la thermique,
ouais.
L'acoustique... la ventilation naturelle. Donc, c'est les trois sujets qu'on retrouve, qui sont systématiques dans un climat tropical. Donc, ça va, par exemple, réglementer la taille des ouvertures des fenêtres pour pouvoir avoir une capacité de renouvellement d'air suffisante. Ça va influencer l'épaisseur de l'isolant à mettre en toiture pour éviter qu'il fasse trop chaud. Ça va imposer de mettre des brasseurs d'air. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont réglementés pour améliorer le confort en milieu tropical. C'est un référentiel qui permet de... C'est un peu un garde-fou, en fait. Éviter de faire n'importe quoi, je trouve. C'est pas si contraignant que ça quand on ouvre les yeux et qu'on regarde le monde qui nous entoure.
Ouais, je sais pas, ça me paraît quand même bien contraignant. Ça fait plein de choses à gérer, mais...
Alors,
ouais.
Oui, dit comme ça, ça a l'air d'être des contraintes, mais je pense que Valentin, par exemple, à travers sa formation en permaculture, il voit ça d'un autre œil, parce que, en fait, c'est des réflexes qu'on doit avoir en tant que concepteur sur le fait de concevoir des bâtiments qui soient adaptés par rapport au contexte dans lequel ils se trouvent. C'est en général la première chose qu'on fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les réglementations, les contraintes économiques, on met tellement de pression qu'on peut parfois oublier les choses essentielles. Et je pense que les réglementations telles que la RTA Dôme permettent juste de les rappeler pour éviter de... Voilà.
C'est super que ce soit naturel pour vous, parce que ça ne paraît pas si logique.
Mettre des fenêtres.
Ah bah, de penser à tout ça, quoi, de façon permaculturelle. Mais alors, dans un projet de tiers-lieu comme ici, qu'est-ce qu'il y a de... C'est quoi qui aurait de plus compliqué ? Qu'est-ce qui est compliqué à gérer pour vous ? C'est quoi les plus grands défis que vous auriez pu rencontrer ou soit qui se rencontrent pas ailleurs ou qui seraient particuliers ici ou nouveaux.
Mais en fait, je pense que c'est y a pas vraiment de y a pas eu de grosses difficultés en tout cas moi depuis que je suis ici. Je dirais que la question qu'on se pose le plus avec Fatema, c'est par rapport à la responsabilité, parce que voilà, on dessine des choses qui sont faites par des bénévoles qui sont non sachants, on en parlait tout à l'heure, mais voilà.
Naïf.
Naïf, mais qui du coup, il faut savoir que nos métiers sont très réglementés, même quand on dessine un meuble. Hein, si un meuble tombe dans un magasin, c'est la responsabilité de la personne qui l'a dessiné. Ici, on navigue un peu à vue et on compte sur toutes les bonnes énergies en se disant qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et puis voilà, on essaye de travailler en bonne intelligence avec les expériences qu'on a pour éviter qu'il y ait des soucis. Mais c'est pour moi le seul sujet un peu touchy. Sinon, le reste, c'est vraiment confortable. Comme on disait tout à l'heure, on fait la conception avec les différentes personnes qui veulent intervenir. Après, on échange sur le projet et puis ça se concrétise vraiment les mercredis matin. avec les chantiers participatifs de 8h à midi, avec le repas qui est offert. On vous invite à venir. Et du coup, bah, à ce moment-là, les choses se concrétisent. Et puis, le projet n'est pas figé, parce que même les personnes qui viendraient sur le chantier participatif, elles sont aussi mises dans la boucle au moment de fabriquer. Et on se repose les questions et on retravaille ensemble. Et il y a vraiment une synergie et une implication de tous, quoi. On n'est pas là juste pour fabriquer, quoi.
Tu parlais de difficultés. Je pense que là, par exemple, ça peut en être une. Pas pour nous en tant que concepteurs, mais pour parfois les raffineurs qui peuvent être perturbés par le fait de voir justement ces plans évoluer un peu sans cesse pour eux. Et qui parfois s'alarment ou m'alertent en disant « Mais Fatima,
quand est-ce que ce sera fini ?»
Ouais, quand est-ce que tu pourras nous donner un plan définitif de la raffinerie ? Je leur réponds jamais.
Ça va tout le temps.
Au grand jamais.
Et c'est vrai que c'est perturbant, même ça aurait pu l'être pour moi, parce qu'on a l'habitude de travailler avec des temporalités. En général, dans un projet d'archi, il y a une phase de conception, une phase de travaux, et puis c'est terminé. La phase de conception se passe pendant la phase de travaux, qui ne s'arrête jamais. Donc oui, on peut être un peu dérouté par ça. Et moi, c'est l'inverse, en fait. Ça me rassure de voir que en fait, il n'y a pas de début, de fin, il n'y a pas de fatalité. Tout est améliorable, tout peut évoluer. Et en fait, c'est réconfortant. Et comme je disais, le projet ne fait que s'enrichir. Donc en fait, je me dis, ça ne pourra que être mieux. Donc ça, c'est super rassurant. Et la temporalité, en fait, elle est nécessaire, parce que on prend le temps, en fait, de bien faire les choses. Alors on prend le temps, ça ne veut pas dire qu'on prend son temps. C'est que, en fait, il y a des contraintes qui font que parfois des actions prennent plus de temps que je ne sais même pas quoi d'autre. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi on se compare, mais on est tout le temps pressé, tout le temps déçu de des longueurs, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe pendant cette temporalité, il y a tellement de choses que souvent je me dis, mais heureusement qu'on n'a pas fait ça aussi vite qu'on l'imaginait, parce qu'en fait, on aurait loupé ça et ça, et ça n'aurait pas été aussi bien. Donc, moi, ça fait réfléchir à la question du temps, tout simplement, qui est un vaste sujet dans nos métiers en général. Pas simple, pas toujours simple à gérer.
Et ça, c'est quelque chose, donc vous êtes un peu... Est-ce qu'il y a quelque chose de... Parce que vous êtes quand même pas mal investis, Fatema et Valentin, chacun de vous, dans le projet de la raffinerie, finalement.
On n'est pas seuls. Hein.
Ouais. Dédicace à Guillaume, d'ailleurs, qui aurait dû venir, qui est à fond sur les travaux aussi en ce moment.
Oui.
Et est-ce qu'il y a, par rapport à l'archi ou à autre chose, quelque chose, une réalisation dont vous êtes particulièrement fier, ou alors une expérimentation à venir qui vous inspire en particulier dans ce que vous faites, ou alors peut-être dans un autre projet de la raffinerie?
Ben moi, j'ai un bon exemple qui est l'épicerie de Vrac, ouais. qui a été conçue et fabriquée, qui est mise en place là depuis quelques semaines dans sa position finale, mais pas encore ouverte. Hein. Pas faire du teasing, mais ce n'est pas encore ouvert. Et c'est un projet vraiment qui a été facile à mettre en place, parce que on avait bien travaillé en amont, et aussi parce que moi j'avais fait une épicerie qui s'appelle Wake Up, qui est à Saint-Gilles, à qui je passe le bonjour, et qui
salut,
les dédicaces commencent. Et en fait, là où il y a un intérêt, c'est que du coup, moi, j'avais l'expérience de ce projet-là pour renseigner sur la manière et l'ergonomie de travail qu'il allait y avoir dans le conteneur. Et en plus, on a récupéré du matériel qu'ils nous ont vendu, parce qu'ils rechangeaient leur bac de vrac. Et du coup, on les a eu beaucoup moins cher, et dans un temps record, parce que ils sont là alors même que l'épicerie n'est pas ouverte, ce qui est vraiment très rare. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Donc voilà, il y a eu, voilà, c'est une espèce de lien entre moi, mon activité et puis ce qui peut se passer ici, même là où on est assis depuis 40 bonnes minutes là, sur des sièges très confortables. Et c'est, ça vient d'un client à moi qui, voilà, c'est des... Nous, on est directement impacté quand on voit tout ce qui peut être jeté lors des chantiers, des choses comme ça. Et ça, c'est de la récup de chantier. C'est des chaises qui ont 15-20 ans. Et
grand merci.
Ce sont les assurances Isotier.
Merci à vous.
Sponsoring.
Du fond du cœur et du fond des fonds. Non.
Du dos.
Du dos. Et toi, Fatema ? Il y a quelque chose, un projet, une expérimentation peut-être qui t'inspire en particulier ou une réalisation ou là, parce que j'imagine qu'un projet de tiers lieu, ça ne doit pas être souvent. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier à titre personnel ?
Moi, c'est vraiment la manière de faire qui m'anime. C'est, tout à l'heure, j'ai évoqué la serre aquaponique, par exemple. Son histoire, elle est rigolote parce que quand on a commencé à y penser lors des réunions, elle était prévue d'être construite vraiment simplement, de manière classique, avec une structure en métal, un toit en tôle, et voilà. Et en fait, il s'est passé à la raffinerie le workshop avec les étudiants en architecture sur le bois de palette, dans lequel ils ont expérimenté la fabrication de poutres en bois de palette. Et c'est suite à cette expérience qu'on a réalisé que ces poutres étaient hyper efficaces, faciles à construire. Et on a testé de les construire d'une plus grande dimension, celle de la serre. On s'est tous mis debout dessus quand on a vu que ça tenait. On s'est dit, banco, on va faire la serre en palette. Et voilà, personne n'y avait pensé avant. On a travaillé avec des ingénieurs qui nous ont aidés sur le dimensionnement. Donc les poutres sont énormes. Donc elles sont en treillis, c'est-à-dire qu'au lieu d'être pleines, elles sont triangulées. Ça permet d'économiser de la matière. Mais elles sont entièrement en bois de palette.
Et en plus, c'est magnifique.
Et ça rend bien, ça rend très bien. Ouais.
Et on mettra des photos sur le site du podcast pour retrouver ça.
Non, puis c'est vraiment quelque chose, c'est un truc emblématique quand même, parce qu'on est sur... moi, de mémoire, je ne connais pas un bâtiment qui est fait en palette à La Réunion, et encore moins dans ces proportions-là, quoi, parce que c'est une serre de 120 mètres carrés. Donc, voilà, il fallait oser le faire, et c'est comme ça que ça avance aussi. Le but, c'est aussi de... On peut parler aussi du workshop qu'ont fait les étudiants sur le bambou l'année dernière. C'est pareil. Aujourd'hui, à la Réunion, on a du bambou partout et on reste encore bloqué par des histoires de réglementation, alors qu'il y a plein de pays dans le monde où on fait des bâtiments en bambou ou des échafaudages de chantier. Et voilà, donc ça pour dire qu'il faut un moment qui est aussi... C'est un peu une des vocations des tiers-lieux, mais des endroits où ce genre de projets peuvent être mis en place et voir le jour, et du coup permettre peut-être de faire changer des lois ou des réglementations court terme ou
des consciences
moyen terme, ouais, et puis juste la société civile, en fait, qu'elle ait un autre regard sur la construction en palette ou la construction en bambou. On est vraiment en plus on est sur des échelles de prix, enfin pour le coup où c'est la récup, quoi, donc ça n'a rien à voir avec de la construction béton ou de la construction bois exotique ou ce qu'on pourrait trouver ailleurs.
Et on a organisé des événements culturels pour ça aussi, pour permettre de partager ses connaissances et pouvoir inviter le grand public à découvrir ces innovations. Donc on a organisé 3 cafés archi sur les thèmes en général qui tournent autour de la construction durable. Il y a eu les constructions conteneurs, justement, pour parler de comment adapter les conteneurs en milieu tropicaux. Il y a eu le café archi sur les matériaux biosourcés à La Réunion. On a fait venir des artisans qui travaillent avec ce type de matériaux locaux. Et le troisième café archi sur la rénovation de maisons low-tech, donc avec un focus sur les toilettes sèches.
Il y en a d'autres de prévus ?
Ils ont déjà été réalisés.
Ah oui. Non, mais il y en a des futurs cafés archi.
J'espère.
C'est pas encore organisé.
C'est pas encore organisé. En tout cas, on est très ouvert à des idées de thèmes. Ouais. Si il y a des propositions, ne pas hésiter à s'adresser au pôle culturel ou travaux,
ouais.
Ou les deux.
Ouais. L'idée, c'est de créer du lien aussi entre les projets, entre les archis eux-mêmes, j'imagine, voilà, qu'il y ait du partage, d'informations. Et...
Oui, tout à fait. Ouais. C'est l'idée à chaque fois. Ces événements se déroulent sur une trame un peu systématique et une projection ou un exemple de projet réalisé dans le monde. Ensuite, on trouve un exemple de projet réalisé à La Réunion et avec un intervenant local qui permet d'échanger sur le sujet avec le public. Donc ça permet d'être en lien avec une personne qui a une expérience locale sur un sujet précis.
Ok, ben merci. Et juste avant de conclure, est-ce que vous pouvez juste nous toucher un mot rapidement sur toutes les innovations qu'on peut voir à la raffinerie ? En fait, toute cette expérimentation, ça fait que beaucoup de choses ont vu le jour ici, des techniques qui sont en cours de développement ou qui sont peu connues, peu utilisées du grand public. Juste voilà, nous toucher un petit mot avant de conclure.
Alors, ils sont nombreux et encore.
Pas tout, mais
oui, des exemples. Alors, on a parlé des principes d'isolation, donc sur tout ce qui est thermique. On essaye de créer des façades végétales, donc décoller des conteneurs parce qu'on ne peut pas les cacher. On essaye de développer des systèmes low-tech pour avoir de l'eau chaude. On essaye de développer des systèmes d'assainissement naturel. On verra à travers les bacs, des bacs plantés. On va essayer les toilettes sèches, ça c'est aussi un procédé qui va être mis en place.
C'est déjà le cas, mais...
Oui, c'est déjà le cas, mais elles seront différentes.
Ah. Affaire à suivre, en gros. Comment on fait alors si les gens qui écoutent là, ils veulent... donc oui, on va poster une ou deux photos, mais pour voir, je sais pas, l'avancement. Est-ce que c'est accessible aux gens, l'avancement du projet, l'avancement des travaux, comment ça se passe ?
Alors, on essaye de communiquer un maximum sur les plans de manière générale, afin de permettre à tous les raffineurs impliqués dans le projet d'avoir les informations dont ils ont besoin pour que chacun puisse avancer sur son projet. Exemple, l'épicerie en vrac, le jardin partagé ou la micro-recyclerie. Chacun a besoin à chaque fois d'être mis à jour des évolutions du projet. Et on a pour ça une plateforme partagée, le nuage des tiers-lieux, qui permet de partager un certain nombre de documents.
D'accord.
Donc c'est un travail un peu, on va dire, régulier et qui demande de la rigueur, mais ouais, c'est l'idée. Et sinon, sur le site internet de la raffinerie, sur le pôle travaux, on diffuse régulièrement les comptes rendus suite aux réunions.
Puis après, tous les mercredis après-midi, il y a des photos du chantier participatif qui montrent aussi les évolutions qui sont apportées le matin même, quoi. Donc, mais le meilleur moyen, quand même, c'est de venir.
Ouais. Chers auditrices et auditeurs, venez le mercredi matin, c'est ouvert à tout le monde.
On vous invite.
7h30, c'est ça, 7h30, petit-déj partagé, 8h, début des... C'est ça, les horaires maintenant ?
C'est ça, jusqu'à midi, ça. Où on partage un bon petit repas.
À midi, repas offert à la fin, venez expérimenter à la raffinerie. Mais merci, le temps passe très vite, ça fait déjà 50 minutes. On aurait pu parler encore...
des jours.
Pendant longtemps. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de fin ?
Bah, moi, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui contribuent au projet. Hein. Vraiment, on est loin d'être deux. Bon, je pense qu'on l'a assez évoqué pendant cette émission, mais c'est important parce que tant les mains qui participent à l'autoconstruction que les cerveaux qui participent à la co-conception. Julien Gaillot, président de la raffinerie, qui est un cerveau quand même... moteur depuis le début, et puis des personnes qui s'intègrent au fur et à mesure. On a parlé de Guillaume tout à l'heure, mais voilà, je peux pas commencer à les citer sinon
une séance de dédicace qui va durer 50 minutes,
c'est ça,
la liste est longue. Valentin, petit mot de fin.
Naïveté.
Gardez la naïveté.
Merci à tous les naïfs.
Un gros big up aux naïfs.
Big up aux naïfs.
Et non, puis merci à vous pour l'émission.
De nous avoir invités.
Ben, merci d'être venu. Et Guillaume, un petit mot de fin ?
Oui, je dirais chocolat.
Ah, va falloir. Ah, mais elle en a. Attention, ça va être le moment de saliver. Eh bien, merci, merci à vous. Et puis, on se retrouvera donc dans un mois pour la prochaine émission Micromonde. Bonne journée, bonne soirée à tous et à toutes.
Aïe.
Et à bientôt.
À bientôt. On peut retrouver Fatema aussi les soirs où elle mixe.
Attention, non, mais on n'en a pas parlé. C'est clair, Fatemix. La prochaine fois que vous voyez Fatemix sur la
prochaine émission.
C'est l'architecte de la raffinerie qui vient mixer. C'est quand même un peu la classe.
Et en plus, elle est sympa. Oh là là.
Et en plus, elle est cool. Alors venez, venez, venez donc.
Merci France.
Merci à tous et à toutes.
Merci Ciao. Fatema, merci Valentin.
On peut remettre le jingle ?
Oui, des allez. Jingles. Allez, jingle fait par... on le dit ou pas ? Qui c'est ? Non, on ne dit pas. On dit que c'est Mister Combat.
Le meilleur.
À ceux qui savent.
Talentueux.
À bientôt.
Bye Ciao. Bye.
Radio Mycélium.
La radio de la raffinerie.
Radio Mycélium.
Que Mycélium.
La radio qui nous connecte.